Je rappellerai que cette année encore, c'est la seconde année. Ce banquet, nous l'avons construit en partenariat avec le Master des métiers de l'écriture de l'Université Jean Jaurès de Toulouse, ex-Mirail, Jean Jaurès désormais. Voilà, et que les étudiants et enseignants de ce master, donc Master 1 et Master 2, il y a deux promotions, ont une participation active que vous devinerez au fur et à mesure des journées, soit en termes d'entretien avec certains auteurs, soit en termes de lecture, et notamment la lecture musicale de ce soir a été conçue avec deux musiciennes et notamment un groupe de ses étudiants. Voilà, donc merci beaucoup au nom du marque-page donc à ces enseignants et ces étudiants du master métier de l'écriture de Toulouse. Voilà. Voilà, donc tout de suite, donc la conférence inaugurale avec Yves Le Pestipon. Donc Yves Le Pestipon, qui est un poète et surtout spécialiste de la littérature classique et aussi contemporaine, qui va faire donc cette conférence inaugurale qu'il a choisi d'intituler, c'est un très beau titre, « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ». En fait, c'est une phrase empruntée à Montaigne, voilà. Et on peut peut-être dire que le passage, c'est peut-être ça le réel, justement. Le réel, c'est le passage. Voilà, on verra. C'est un suspense infernal. Allez, vas-y, Yves. Merci beaucoup à toi d'être venu ici.
Voilà, bonjour. Oui, je vais mettre un peu l'accent aujourd'hui sur la question du roman ou des romans, et puis on réfléchira un petit peu sur le déroman des romans. Et justement, donc, je vais commencer par évoquer, mais rapidement, un des romans les plus célèbres et les plus maudits de la modernité, un des plus condamnés, et pourtant avec une sorte d'unanimité de la critique, totale, rigoureuse. Ce roman s'appelle Le Passage, et constamment condamné, attaqué, en dépit du fait que son auteur est un des membres de l'Académie française, puisqu'il s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Alors, effectivement, voilà un titre d'une œuvre à la fois très célèbre et extrêmement condamnée, et un titre, quelque part, qui demeure. Le Passage, en effet, un titre qu'on peut dire tentant pour des romanciers, Le Passage. Et simplement, si je prends Internet, en passant, que je clique rapidement avec le bout de doigt qui passe sur les touches, je vois apparaître plusieurs romans à travers le monde, traduits en français, qui s'appellent Le Passage. Il y a au moins deux romans américains, plus ou moins de science-fiction, et l'un de vampire. Il y a au moins un roman québécois. Et aussi, évidemment, il y a le roman de Valéry Giscard d'Estaing, qui s'appelle donc Le Passage. Et donc, c'est un titre tentant pour le roman, ou les romans, ou pour les romanciers, le passage. Et en effet, si je réfléchis un tout petit peu, le passage est vraiment présent dans le roman moderne. Et cela, par exemple, si je pense à un des romans modernes les plus célèbres, Le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Au début du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, il y a une chanson que Céline attribue à des soldats suisses, enfin à la garde suisse, qui date de 1793, ce qui est sans doute une fausse date et d'ailleurs une fausse chanson. Et si je lis simplement ce petit texte, « Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage dans le ciel où rien ne luit. » Et donc cette chanson, le général Végan, dans une sorte de texte politique, les attribue au garde suisse, lui aussi, qu'il aurait chanté au moment du passage de la Bérézina. Et encore une fois de plus, on trouve le passage de la Bérézina. Et Céline connaissait cette anecdote, d'ailleurs peut-être fausse. Mais quant à lui-même, il appelle « Passage de la Bérézina », on le sait, dans un de ses livres les plus célèbres, qui suit « Voyage au bout de la nuit », donc « Mort à crédit », il nous dit qu'il est né dans le passage de la Bérézina, qui renvoie au passage Choiseul, dans lequel il a vécu. Et donc il nous décrit longuement ce lieu extraordinaire du roman moderne, qui a un passé et un avenir, dont on voit bien que c'est un lieu où on passe, où le temps passe, c'est un lieu de la modernité, c'est un lieu où les choses se transforment très très vite, et donc c'est à la fois Le lieu du passage au sens du mouvement, c'est aussi la formulation architecturale du passage, et c'est aussi un moment de l'histoire du début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, qui est effectivement le passage. Et donc on a ce lieu qui est effectivement le lieu du passage. Alors ce lieu a une histoire romanesque, si certains connaissent peut-être le premier grand roman de Zola qui s'appelle Thérèse Raquin, bon, il commence par la description d'un passage, qui est le passage du Pont Neuf, dans lequel se déroule une bonne partie de l'action, et on va dire Zola inaugure à peu près, dans la littérature française du 19e siècle, le passage. Et puis on sait bien, évidemment, que Louis Aragon a fait du passage un des lieux fondamentaux de son œuvre, aussi bien d'ailleurs dans ses romans, dans Anicet ou Le Panorama, ou dans Les Beaux Quartiers, que surtout peut-être dans Le Paysan de Paris, dont la première partie s'appelle effectivement Le Passage de l'Opéra, donc c'est à la fois un lieu parisien, effectivement un lieu où l'on passe, un lieu du passage du temps, un lieu où se font des passes aussi, bien sûr, puisque ce sens apparaît aussi dedans, et puis évidemment une architecture très complexe avec passage et qui joue évidemment, ce lieu existe, avec le mot opéra, lieu de la musique et aussi lieu du travail, de la fabrication, de la création, des choses de ce genre. Et donc effectivement, des passages dans la littérature, des passages au sens que l'on donne à ce terme, c'est-à-dire de lieu de passage dans la ville, il y en a beaucoup dans le roman contemporain. Et si je pense aussi au premier roman d'André Gide, un des romans célèbres de Gide, qui est Le Passage de Milan, qui ne se passe pas à Milan, très bien, et bien il est bien là-dedans aussi question de passage de Milan, de lieu, de circulation, et aussi de circulation dans une ville, puisqu'il s'agit de décrire un immeuble parisien pendant une certaine durée, qui renvoie à 12 heures, etc., avec des étages et tout ça, et donc il nous évoque effectivement le passage du temps de l'année. Et donc, effectivement, si je me promène, je ne vais pas faire un cours de littérature complet sur l'histoire du passage dans la littérature française ou européenne, il y a bien, effectivement, une tentation, un désir, une vocation de dire, effectivement, le passage, y compris sous la forme architecturale, qui n'est pas rien, puisque c'est à la fois le passage même et la métaphore du passage, et aussi, si on peut dire, la métonymie du passage, l'architecture même du passage qui est constituée. Alors, bien sûr, le passage, ce n'est pas simplement cette architecture. On sait bien que dans quantité de livres, de romans ou autres, il y a effectivement le mot passage qui apparaît. Alors, il y a demain ou après-demain, je ne sais plus très bien, Yves Ravet qui vient présenter son dernier livre qui s'appelle « Sans état d'âme », donc qui est aux éditions de Minuit. Et si j'ouvre simplement ce livre très rapidement, je m'aperçois que dès la page 7, c'est-à-dire en réalité la page 1, il y a immédiatement un train qui passe et des gens qui le regardent. Eh bien, je vois ceci, c'était des convois sans fin. Je me souviens qu'après l'école, descendant du car de ramassage scolaire, je m'asseyais avec Stéphanie et Betty sur le parapet du pont au-dessus du ruisseau. Et tous les trois, nous assistions au passage des trains aperçus à l'horizon, derrière la ligne des peupliers. Et voilà le mot passage. Voilà le mot passage qui va nous servir un petit peu. Et donc, ce mot passage, on l'entend dans le texte. Non seulement on le voit, le mot passage, mais on l'entend. Parce qu'entre le parapet du pont, au-dessus, ruisseau, aperçu, horizon, assistion, et même les prénoms comme Stéphanie, on entend qu'il y a un déploiement phonique dans tout le passage, des lettres du mot passage qui passent dans toutes les autres lettres des mots qui sont autour. Et donc, le passage n'est pas simplement un lieu, n'est pas simplement un moment, mais est aussi une écriture, véritablement, dans ce début du roman qui commence effectivement par un passage, et qui est le passage du train, objet assez fréquent, et là aussi dans les romans. Et on peut dire qu'il y a une sorte de tradition maintenant des romanciers ferroviaires à passage de train. Je prends l'expression de romancier ferroviaire à Michel Butor, qui est un des grands auteurs, effectivement, du roman ferroviaire. Tout le monde connaît ce roman du passage dans le train, qui s'appelle La Mulification, où ceux qui peut-être n'ont pas vraiment lu savent qu'il y a un personnage qui vous, le roman est adressé à la seconde personne du pluriel, qui prend le train de Paris jusqu'à Rome, où il va retrouver sa maîtresse qui s'appelle Cécile, l'aveugle. Il part de Paris, il quitte sa femme qui est Henriette et il passe dans le train, effectivement, de Paris à Rome, mais il passe d'un état de conscience, d'un flux de conscience à un autre, et arrivant à Rome, effectivement, il revient à Paris, au bout du compte, au dernier chapitre, pour retrouver peut-être sa femme Henriette. Et donc on a effectivement là un roman ferroviaire, un roman du passage, et il y en a des quantités d'autres. Si je pense à Christian Oster, par exemple, un de ses livres s'appelle « Dans le train ». Si je pense à un romancier bon, bien connu à Toulouse, à l'Université du Mirail en particulier, Arnaud Rickner, d'accord, il y a effectivement le wagon dans lequel il y a aussi effectivement un train, mais c'est de manière beaucoup plus douloureuse aussi, c'est encore un passage dans le train, mais il s'agit de gens qui s'en vont, pas pour leur plaisir, au camp de Dachau, et qui donc sont pris aussi dans le train avec cette thématique effectivement du passage. Et si je me promène dans les romans, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de trains. Il y a aussi beaucoup d'avions, il y a aussi beaucoup de bateaux. Et par exemple, dans un roman de Julia Deck, qui viendra juste après, tout à l'heure, donc dans au début du roman, effectivement, qui s'appelle Triangle d'hiver, bien sûr, il est question de contempler des bateaux, des paquebots dans le port du Havre. Et on voit donc ces bateaux qui passent, etc. Voilà encore un thème qu'on trouve vraiment assez fréquemment dans les romans. Alors, on ne va pas faire une liste, effectivement, du nombre de romans dans lesquels on montre des figures de choses qui passent, qui peuvent être des trains, des bateaux, des avions, des gens sur des routes, enfin, etc. Hein, et effectivement, peut-être bien, l'intégrale de tout ça, c'est dans le titre de ce romancier extraordinaire qui est Jules Verne, Les voyages extraordinaires, donc ils sont sans arrêt avec des ballons, des trains, tout ce que l'on veut, effectivement, des romans du passage. Et on va dire, à l'intérieur des romans de Jules Verne, il y a bien quelque chose qui dit magnifiquement le passage, c'est le sous-marin du capitaine Nemo, le Nautilus, qui porte effectivement comme titre, ce titre en latin, Mobilis Inmobile, mobile, à l'intérieur du mobile, et on sait, pour ceux qui connaissent Butor, hein, qu'un de ses textes s'appelle Mobile, qui renvoie à tous les sens du mot mobile, et entre autres, effectivement, au capitaine Nemo, et Mobilis Inmobile. Et donc, effectivement, ce passage, en ce sens-là, est très fréquent, effectivement, dans les romans. Évidemment, ça peut être dans l'art français de la guerre, sous la forme des transformations de la guerre dans l'art français de Laurent Génie, qui a eu le prix Goncourt il y a 3-4 ans. Ça peut être chez Tristan Garcia, qui sera demain ou après-demain ici, en présentant quelque chose, le roman qui s'appelle 7, composé lui-même de 7 parties dans lesquelles on passe d'une histoire à une autre et dans lequel une drogue qui s'appelle l'hélicéenne permet de retrouver des états de jeunesse, d'enfance, avec un corps qui est conservé, donc une série de passages. Et ça peut être évidemment, si vous voulez, bon, les romans de Houellebecq et bien d'autres dont on parlera beaucoup, puisque donc Houellebecq, dans un de ses romans les plus connus, celui qui a eu le prix Goncourt, donc qui s'appelle La carte et le territoire, dit à peu près en substance que le roman est du côté effectivement de la narration, du récit, et n'est pas du côté de la collection. La collection serait qu'on pensait d'autres d'art, et puis il développe aussitôt l'idée que le roman est effectivement un art du passage, et on reviendra sur Houellebecq un petit peu tout à l'heure. Alors peut-être bien que ce mot passage, parce que nous sommes dans une abbaye, et parce que ça vaut la peine d'être dans une abbaye, on peut se souvenir, évidemment, puisqu'on est dans une abbaye, qu'il y a le jour de Pâques, et que le jour de Pâques, en hébreu, c'est donc Pessah, hein, bien entendu, et que la fête de Pessah chez les Juifs, et du coup, au bout du compte, chez les chrétiens, c'est d'abord la fête du printemps, c'est-à-dire la fête du passage, quelque chose, à ce moment-là, au moment de Pessah, se passe, et qui fait qu'on passe d'un état de la nature à un autre, on le voit bien, même avec les glissements climatiques. D'ailleurs, Pessah, à l'origine, renvoie au mot passage, dans un sens un peu particulier. Donc, quand les Hébreux sont en Égypte, donc ils sont menacés de toutes sortes de fléaux, et en particulier, donc on veut massacrer tous leurs enfants, et donc Dieu Pessah passe au-dessus. Alors ça fait un des petits bonds, il bondit, enfin voilà, il fait des petits bonds au-dessus des maisons pour les prévenir. Et donc ça, c'est l'origine de la fête de Pessah, c'est-à-dire effectivement le saut, le passage de Dieu au-dessus des maisons pour, au bout du compte, prévenir que, attention, attention, les Égyptiens risquent de vous massacrer. Et du coup, ça se déploie parce qu'évidemment, Pessah devient la fête du passage, évidemment du passage, pas simplement de Dieu, mais de la sortie d'Égypte. Et aussi, dans beaucoup de traditions, ça devient le passage de la mer Rouge, la traversée de quelque chose. Et donc, effectivement, Pâques est la fête, en effet, du passage, avec tous ces rappels, évidemment. Et puis, pour les chrétiens, c'est le moment de la résurrection, c'est-à-dire du passage, effectivement, après le passage de la vie à la mort, de la mort à la vie, hein, le jour de la résurrection, avec ce cheminement. Et on sait bien que, disons, la religion chrétienne ne cesse de commémorer de manière répétitive ce passage du jour de Pâques, de ce qui le précède, de ce qui va le suivre, bon, la mort, la résurrection, et que, véritablement, en nous proposant l'hostie, la présence réelle, elle ne fait rien d'autre que célébrer en réalité effectivement le passage. Alors on est donc là dans quelque chose de très ancien et qui va bien effectivement dans une abbaye pour parler effectivement de passage. Alors en effet, pour toutes ces raisons qu'on aperçoit, on se doute bien que le mot passage, le passage, est un titre tentant pour toutes sortes de romans, de romances ou de romanciers. Alors évidemment, tentant aussi donc pour celui que j'ai cité tout à l'heure, Valéry Giscard d'Estaing, sur lequel je reviens quelques instants, parce qu'on a dit beaucoup de mal de ce roman, mais peu de gens l'ont lu véritablement. Et là, pourquoi il s'appelle Le Passage ? On va retrouver un petit peu ces thèmes, on va déployer ensuite. Donc il y a effectivement, c'est écrit un roman à la première personne par un narrateur, bon, on peut imaginer qu'il est Giscard, en fait il prend le nom de Charles, passage intéressant de Valéry à Charles, le roi, mais aussi surtout Charles de Gaulle. Et cet homme assez âgé, d'accord, notaire dans une ville de province au centre de la France, va à la chasse, observer le passage des cerfs, il leur dirait dessus, et allant à la chasse, invité par un certain Michel, il voit le long de la route une jeune fille blessée, et il est tenté excellent de s'en emparer, mais il continue, il va à la chasse, il est plein de regrets, enfin quelques jours plus tard il repasse, il l'embarque, et il la met dans sa voiture, il l'amène dans son château, s'ensuit évidemment le triomphe sexuel de Charles, Giscard, peu importe, jusqu'au moment où la jeune fille s'en va, disparaît, et donc le personnage reste mélancolique devant la fuite, la disparition de la jeune fille. Voilà en gros ce qui se passe dans ce roman qui s'appelle Le Passage. Donc il y a bien évidemment le passage sur la route, il y a bien ce thème là qu'on a rencontré, il y a bien le passage d'un corps à l'autre, d'un corps vers l'autre, il y a bien le passage du réel à la fiction, puisque donc effectivement ce roman écrit par un homme qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing, qu'on est par ailleurs, est fictionnalisé à un autre personnage qui est lui-même et qui n'est pas lui-même, qui est évidemment Charles, et on voit bien effectivement que ce n'est pas lui-même et que c'est aussi celui qu'il rêve d'être, c'est-à-dire bien sûr le roi et évidemment Charles de Gaulle qu'on ne réussit pas toujours à être quand on s'appelle Valéry. Et donc bien sûr il y a toute une série d'éléments qui renvoient à cela, mais il y a aussi le fait que ce roman lui-même fait passage, comme dans beaucoup de romans, vers d'autres livres de la littérature qu'il cite, qu'il rappelle sans arrêt. Giscard, en effet, est un homme cultivé. Il a lu un roman japonais qui s'appelle Le fusil de chasse, que certains connaissent peut-être, d'accord, dans lequel il y a effectivement une histoire de chasseur. Et donc son roman est une réécriture. Et donc quand je lis ce roman, je fais passage vers le roman japonais et je reviens du roman japonais à cela, roman qui est cité directement dedans, le héros se présentant comme un lecteur, narrateur, en même temps autre chose. Et puis ça va très très loin, parce que Giscard est à peu près fou à mon avis, mais il va très très loin dans l'intégrale de son œuvre, puisqu'il dédie son œuvre à son personnage favori, qui est Maupassant, mais il met un exergue de son roman, l'enterrement de Maupassant, il ne trouve rien de mieux. Donc Maupassant qui porte dans son nom Le Passage, et il rappelle que son roman est un roman dédicacé au moment où Maupassant va au cimetière, enterré tout seul, vous savez, à la fin de Maupassant, et il évoque le convoi funèbre de Maupassant, passant vers le cimetière, le moment où ça passe, etc. Et donc on a effectivement dans ce roman étrange l'intégrale des sens du Maupassant. On a la fiction, bien sûr, fiction réelle, on va y revenir. On a le temps qui passe, on a les corps qui s'échangent, on a les jeux de mots, passage, passage, etc. On a beaucoup de choses qui se trouvent dites autour du passage et qu'on va déployer un petit peu sans savoir encore si ce mot a un rapport exact avec le réel ou quel rapport faire. Alors ce mot lui-même, on comprend qu'il soit tentant parce que ce mot, il est joli. Hein, il est joli en langue française. Ce mot offre ce que Barthes appelle la liberté du signifiant. La liberté du signifiant, c'est pas se coller au signifié de manière fixe, bien entendu, donc il y a un signifié qu'on va trouver dans le dictionnaire, mais le signifiant, c'est ce qui se déploie et à l'infini, avec une liberté très bien qui est à la fois dans le signifiant et dans ceux qui rêvent sur le signifiant, bien sûr. Et par exemple, si j'entends passage, j'entends évidemment le sens, le signifié que je vais trouver dans le dictionnaire, donc mouvement, transition, lieu de passage, etc., tous ces sens-là, mais j'entends aussi, bien sûr, en langue française, passage. Passage égale fou, hein. Il n'est pas sage, bien entendu. Mais j'entends exactement, strictement l'inverse. Parce qu'évidemment, c'est le pas sage, c'est-à-dire le pas d'un homme sage, le côté force tranquille, si vous voulez, pour citer François Mitran, etc. Donc, le passage nous dit à la fois passage et passage, et aussi passage, bien entendu. Et donc, il nous dit à la fois donc, le mouvement, il nous dit aussi la folie, il nous dit aussi la sagesse du pas. Il nous dit évidemment le passage entre le passage et le passage. Et donc, effectivement, donc, ce mot-là est une sorte de festival de passage dans la liberté complète du signifiant sur lesquels on va voir les romanciers, les poètes en tout genre jouent et que évidemment n'ignore pas celui qui appelle son roman Le Passage, surtout que je reviens encore, je l'assure, je ne vais pas faire la conférence sur Giscard, je reviens encore sur ce personnage-là. À la fin de son roman, bien sûr, il renvoie à un texte poétique qui est un poème de Vauquelin de La Fresnaye. Vauquelin de la Fresnaye est un poète de la fin du XVIe siècle, enfin il naît au milieu du XVIe siècle, il meurt quelque chose en 1607 à peu près, et donc c'est un contemporain à peu près de Montaigne, même s'il vit quelques années plus tard, un peu au-delà. Donc c'est un poète, donc pas de la période de la Pléiade, la période qui suit, donc il y a un grand nombre de poèmes, et donc Giscard cite un merveilleux poème bien connu de Vauquelin de la Fresnaye. J'en lis simplement la fin, parce que cette œuvre qu'il met à la fin de son texte comme résultat à la fois matrice du texte et originaire du texte, le voici. Amour, tais-toi, mais prends ton arc, car ma biche belle et sauvage, soir et matin, sortant du parc, passe toujours par ce passage. Alors je le relis, parce qu'en fait, il faut toujours le relire ou le réciter pour entrer un petit peu dedans. Amour, tais-toi, mais prends ton arc, car ma biche belle et sauvage, soir et matin, sortant du parc, passe toujours par ce passage. Il faut le lire, il faut aussi le voir. Parce que, par exemple, il y a un certain nombre de phénomènes de retournement. À la fin du premier vers que j'ai lu, « Prends ton arc », il y a le mot « arc », d'accord ? Mais au début du vers suivant, il y a le mot « car », « car », « ma biche », etc. Alors on sait bien qu'entre « arc » et « car », c'est un rapport d'anagramme, c'est-à-dire que les lettres d'arc se retournent pour faire « car », ou les lettres de « car », dans l'autre sens, se retournent pour faire « arc ». On connaît bien le phénomène de l'anagramme, hein, la niche, le chien. Serge Pey aime bien dire les tripes, l'esprit, hein, par exemple, voilà, des anagrammes. Hein, donc, qu'est-ce que c'est qu'un anagramme ? On prend deux structures verbales, ou enfin, en langue française, par exemple, ou dans d'autres langues, et on les retourne, et donc on fait passage d'une structure à l'autre. Et on dit il y a un rapport entre les deux, mais ce rapport est un peu étrange. Genre, les poètes de la Renaissance adorent ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, dans le mot arc, le mot car, dans le mot car, le mot arc. Arc rappelle car, car rappelle arc. Donc c'est un premier phénomène intéressant, vous voyez, de redistribution et en même temps de répétition. On redistribue arc en car, on répète arc en car. Hein, voilà la chose. Mais évidemment, il y a aussi dans le texte bien d'autres figures de ce genre. Hein, voilà. Par exemple, passe toujours par ce passage. Alors, excusez-moi, je fais un peu le professeur de littérature, ce qui est un peu lassant peut-être pour certains collègues qui connaissent un peu trop ça aussi. Mais donc, il y a dedans effectivement des figures. Là-dedans, par exemple, il y a le verbe passer, hein, et puis ensuite il y a le mot passage. Donc il y a le même mot, hein, voilà, qui est employé dans un cas où c'est un nom et d'autres cas c'est un verbe. Donc on peut appeler ça un polyptote, si on peut dire un peu cuistrement. Donc passe annonce passage, passage rappelle passe. Et donc on se souvient que passe rappelle passage, passage. Et donc là aussi on redistribue et on répète. Mais aussi un peu plus loin, il y a passe toujours par ce passage. Parce, et donc parce, on se dit, ça ressemble beaucoup à passe, passe, parse, hein, voilà. Et donc, c'est une sorte de paronomase, un passe ressemble à parse, passe annonce parse, parse rappelle ça. Et donc, on a là aussi, de nouveau, redistribution et répétition. Et donc, chaque fois, on le voit dans l'écriture, hein, là on est dans l'écriture vraiment poétique, l'écriture, on peut penser à l'oulipo, hein, des gens comme ça, les modernes, mais les poètes de la Renaissance connaissent très bien ça. On a des mots qui renvoient à d'autres mots, qui renvoient eux-mêmes à d'autres mots, ce sont les mêmes, ce ne sont pas les mêmes en même temps. Et donc on a redistribution, insistance, répétition, et le phénomène majeur de tout cela, c'est la rime, bien entendu. Dans la rime, on ne fait jamais que rappeler, annoncer, revenir, repartir, faire passage, par exemple, de sauvage à passage, d'arc à parc, de passage à sauvage, etc. Et donc on a là un travail typiquement de poète, hein, véritablement de poète, au sens où Francis Ponge, par exemple, va parler de la poésie, hein, c'est-à-dire pas une inspiration qui tombe du ciel, mais un travail dans la langue très maîtrisé qui fait effectivement un travail de répétition, d'échange, etc. On est effectivement dans la matière même de l'écriture, véritablement. Et on voit bien qu'ici, le mot passage lui-même se déploie chez Vauquelin de la Fresnaye dans plusieurs sens. Puisque donc il y a évidemment le sens de la biche belle et sauvage qui passe, tout simplement. Et donc ça c'est le mouvement, on va dire, comme le train voyage, comme les bateaux voyagent, comme Giscard sur sa voiture voyage, se déplace, comme le temps passe, etc. Mais il y a aussi l'autre sens, la biche passe par ce passage. Et donc ce passage-là, c'est le lieu à travers les branches, par exemple, d'accord, à travers lequel elle passe, au fond c'est le sens de passage qu'on a dans le passage de l'opéra. C'est-à-dire non plus donc le mouvement lui-même, mais le lieu à travers lequel on passe. Et donc, évidemment, Vauquelin de la Fresnaye fait passage entre passé et passage, bien sûr, qui est dedans. Mais en même temps, il nous fait entendre par le parce, par les autres rimes, etc., que effectivement, il y a aussi le temps de l'écriture, le temps de la lecture, et donc toute une série d'autres temps sens du mot passage que ceux qu'on aperçoit simplement dans l'histoire de la chasse et de la biche, qui est évidemment aussi la jeune femme, etc., un thème que Giscard réintègre fortement dans son roman. Et donc, effectivement, Vauquelin d'Affrénée est assez intéressant pour cette introduction du mot « passage » en poésie. On y reviendra. Mais Vauquelin d'Affrénée a un autre intérêt, c'est qu'en gros, c'est un contemporain de Montaigne, en gros. Hein, c'est-à-dire qu'évidemment, il survit à Montaigne une dizaine d'années, mais bon, ils auraient pu effectivement se rencontrer, et certainement Vauquelin d'Affrénée avait une idée de ce qu'a pu être Montaigne, qui était un personnage assez célèbre, sans être excessivement célèbre, de son temps. Et donc, effectivement, à peu près au moment où Vauquelin d'Affrénée devait composer ce poème, on peut dire à 10 ans près peut-être, hein, on ne sait pas exactement quand Vauquelin a composé ce poème, on ne sait pas exactement quel jour non plus. Montaigne a écrit la phrase que je vais citer dans un instant, mais ça se passe à quelques années près, peut-être même, sait-on jamais, le même jour. Donc Montaigne écrit en effet cette phrase que j'ai mis comme titre à ce petit exposé, « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ». Alors cette phrase apparaît à la fin de la carrière de Montaigne, hein, voilà, dans son dernier livre, il y a 3 livres des Essais de Montaigne, dans le livre 3, il y a plusieurs chapitres, il y a un chapitre 2, le chapitre 2 s'appelle « Du repentir », et dans le chapitre 2 du repentir, quelque chose comme dans la première page de ce chapitre, on trouve cette phrase remarquable, « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ». Dans ce chapitre qui s'appelle « Le repentir », dans lequel on trouve 2 phrases qui sont presque à côté, hein, presque immédiatement à côté, une phrase qui est juste un petit peu avant, que je vais un peu commenter aussi, qui nous dit « Le monde est une branloire pérenne ». Phrase magnifique, « Le monde est une branloire pérenne », avec tous les sens, y compris rigolo au demeurant, que l'on peut avoir à la branloire pérenne, hein, là aussi, pour ne pas reciter encore Serge Peym, il parle souvent des branleurs de dindons, mais qui sont une activité du sud-ouest que Montaigne connaissait. Et d'autre part, juste après, on trouve une phrase remarquable qui est « Je n'enseigne point, je raconte ». Je n'enseigne point, je raconte. Et donc, « Je ne peins pas l'être, je peins le passage » est une phrase qui est encadrée par des phrases fondamentales de l'œuvre de Montaigne. Hein, effectivement, « Le monde est une branloire pérenne » et juste après, enfin quelques lignes après, on trouve cette formulation très intéressante « Je n'enseigne point, je raconte », ce que actuellement je ne fais pas vraiment. Et donc, on a un chapitre qui s'appelle « Le repentir ». Et alors, si je m'interroge sur le repentir, c'est une notion intéressante pour Montaigne et puis en général. Le repentir n'est pas le remords, tout à fait. Le repentir prend plusieurs sens. Il y a un sens qui est peut-être un peu moral, qu'on va vers le remords. Mais il y a aussi le sens de l'écriture, quand je corrige, quand je reviens un petit peu en arrière. Mais plus fondamentalement, le repentir nous dit, voilà, il y a un mouvement, on revient un petit peu en arrière, éventuellement on corrige ou on ne corrige pas, on doute, et puis on réavance. Et donc on retrouve dans le repentir cette idée qu'on a aperçue il y a un instant dans Vauquelin d'Affrénée, il y a un mouvement aller-retour, d'arc à quart, de quart à arc, avec production de quelque chose d'autre qui est intéressant, qui ne nous détruit pas, qui est une sorte d'aller-retour et qui peut jouer évidemment dans la vie, hein, le repentir, mais évidemment aussi dans l'écriture, mais aussi dans la lecture, bien entendu, dans le travail de l'essai même qui est là. Alors, ce que nous dit Montaigne, donc, il nous oppose 2 choix dans cette phrase célèbre, « Je ne peins pas l'être, je peins le passage », il nous dit d'un côté, effectivement, « Je ne peins pas l'être », voilà une possibilité, on peut choisir de peindre l'être, et il y a une autre possibilité qui est « Je peins le passage », et voilà celle que je choisis. Donc, ce n'est pas l'opposition simple entre l'être et le passage, mais c'est l'opposition entre peindre l'être et peindre le passage. Alors, si je fais quelques remarques un petit peu là-dessus, je m'aperçois d'abord que cette formule, elle est au présent. C'est au présent, maintenant, en ce moment, là, aujourd'hui, pour une durée, je ne peux pas la préciser, je ne peins pas l'être, je peins le passage. Et ce n'est pas un bilan, ce n'est pas j'ai peint l'être autrefois, je peignis l'être, quelque chose comme ça, et je peignis le passage, et ce n'est pas non plus un futur, un projet. Je ne peindrai pas l'être, je peindrai le passage, quelque chose comme ça. Donc, c'est ni un passé, ni un futur. C'est un présent. Idée très importante. Et le présent, eh oui, qu'est-ce que c'est que le présent ? Voilà, je peux plus ou moins construire l'idée de ce que c'est que le passé. Je peux raconter le passé, je peux voilà, me faire une idée du passé de la France ou mon propre passé. Je peux aussi projeter, construire mon idée de l'avenir. Je peux faire un désir d'avenir, par exemple, et faire un programme commun ou pas pour mon avenir et me faire une construction de l'avenir. Mais le présent, ce que je suis en train de vivre, à peine l'ai-je formulé que déjà il n'est plus, et avant que j'y pense, il n'est peut-être pas encore véritablement. Et donc, je ne suis pas vraiment au monde, hein, si on prend une formulation de Rimbaud, quelque part, dans ce présent même. Donc, ce présent va être très important pour notre réflexion sur le roman, hein, dans un instant, et à partir de là, sur les essais. Première chose, donc, il le dit au présent, il ne le dit pas au futur, il ne le dit pas au passé. Ensuite, il emploie effectivement le verbe peindre. Le verbe peindre est un mot ici qui n'est pas un mot strictement exact. On va dire que c'est un mot à caractère métaphorique. On sait bien, nous savons bien que Montaigne n'est pas en train de peindre. Montaigne n'est pas Rembrandt ou Van Eyck ou un autre. On sait bien qu'il n'a pas produit des portraits, etc. physiques. Et donc ici, quand il nous dit peindre, il ne nous dit pas peindre. En réalité, on sait bien qu'en fait, il nous dit écrire. Puisque Montaigne écrit, en fait, voilà, j'écris lettre, je n'écris pas lettre, j'écris le passage. Mais il ne dit pas je n'écris pas lettre, j'écris le passage, il dit je peins, je ne peins pas lettre et le passage. Et donc il fait passage, c'est ça le sens de la métaphore, il fait passage de l'écrire à l'être, de l'écrire au peindre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une métaphore ? Métaphore en grec, metaphorein, ça veut dire porter à côté. Hein, porter à côté. Par exemple, si on va en Grèce, les métaphoroi, actuellement, ce sont les déménageurs. Hein, j'ai bien aimé une vanille où je me trouvais devant Cythère, où je m'apprêtais à me faire embarquer. Il y avait sur l'embarcadère un camion qui était les métaphoroi kiteron. Les métaphoroi kiteron, ce sont les déménageurs de Cythère. Et j'aime beaucoup qu'il y a en Grèce, toujours actuellement, des déménageurs qui s'appellent des métaphoriseurs, on peut dire. Des métaphores. Et donc, la métaphore, effectivement, c'est un art du passage. C'est-à-dire que je dis une femme est une rose, la femme n'est pas une rose, mais effectivement, je fais passage de la femme à la rose ou de l'écrire au peindre. Je fais là quelque chose que je peux figer complètement, bloquer éventuellement, comme dans le pied de la chaise, mais aussi que je laisse en quelque façon ouvert. Il y a quelque chose, voilà. Et là, on sait bien que ce passage est compliqué, parce que je vais de l'écrire au peintre. Au peindre, mais du peindre à l'écrire, et en même temps, effectivement, ce n'est pas simplement un passage à deux termes, A, B, B, A, hein, A, B, B, A, mais aussi à troisième terme, parce que moi-même, je suis concerné. Moi, le point C, celui à partir duquel je pense la métaphore, je suis moi-même, en tant que je suis, c'est-à-dire dans mon être complet, corps, imagination, sensualité, etc., en train de construire ce passage, de l'écrire au peindre, ou du peindre à l'écrire, ou de la rose à la femme, ou de la femme à la rose, avec ceci plus ou moins de liberté. Et donc, il y a un système de passage qui constitue dans la métaphore, système que connaît bien Montaigne, hein, puisqu'il réfléchit beaucoup sur ces choses-là. Et puis donc, si je réfléchis un peu mieux encore sur le verbe peindre lui-même, pourquoi le verbe peindre ? Enfin, voilà, qu'est-ce qui se joue dans le verbe peindre ? Et dans le verbe peindre, là aussi, je vais retrouver l'idée du passage. Alors, on a tous vu un jour ou l'autre des peintres peindre, ne fût-ce que dans des films, par exemple le film de Jacques Rivette, hein, qui essaie de la Belle Noiseuse, qui essaie de montrer un peintre sous les apparences de Piccoli qui peint, et donc on voit effectivement cet acte du peintre quand il peint, tout simplement sa main passe et son pinceau sur la toile et fait passer de la couleur et ça frotte et ça revient et c'est extrêmement physique, hein, le travail du peintre est d'abord essentiellement un travail physique où quelque chose se passe, il se passe rien d'autre, le fait que sa main passe sans arrêt sur quelque chose. Et donc il y a toujours dans le travail de celui qui peint au présent quelque chose d'inaccompli. Il est en train de peindre, il n'a pas peint, il ne peindra pas. Il est en train de peindre et quelque chose se fait, on le voit bien dans un film de Jacques Rivette, où si on passe du temps à discuter avec un peintre et à le regarder peindre, on voit effectivement que le temps passe, en effet, mais surtout, sa main passe sans arrêt, ça s'en va et ça revient, si on veut, sur la toile, avec le pinceau, avec la toile, la brosse, enfin, etc., hein, qui passe sans arrêt, eh bien, c'est bien ce travail dont nous parle Montaigne. Je peins, c'est-à-dire je passe, je reviens, je réécris, j'ajoute, je bricole, j'ajoute des suppléments. Et ceux qui ont vu un jour ou l'autre les manuscrits de Montaigne savent bien à quel point il ajoute des, hein, vous parlez un peu comme Proust, des paperolles, enfin des suppléments, hein, des suppléments qu'on a par exemple dans l'exemplaire de Bordeaux qui débordent la page, hein, sans arrêt. Et donc il y a bien ce travail, hein, d'écriture, mais qui est aussi comme une sorte de peinture au sens physique. Et donc, peindre, c'est ça. Mais c'est peindre aussi, c'est aussi autre chose. C'est-à-dire que si je peins, effectivement, je fais passer, disons, d'une espèce de chaos qui est la primitive de couleur, peut-être, voilà, je fais passer peu à peu vers la sensation, peu à peu, ce qu'on peut appeler une image, qui se constitue peu à peu, qui passe peu à peu, quelque chose vient de la toile et m'apparaît, comme cela, monte lentement, et quand je peins, véritablement, tant que je peins, je ne la vois pas encore, je la vois monter, ou je la prévois, je l'attends, je la désire, elle s'impose à moi, etc. Toutes sortes de choses dont parle bien un roman, enfin une nouvelle, très célèbre de Balzac, qui s'appelle Le chef-d'œuvre inconnu, dans lequel on voit un personnage qui s'appelle Frénophère, donc on se situe quelque part dans le XVIe siècle, plutôt au début du XVIIe siècle. Il y a un peintre génial qui d'abord va voir un peintre un peu moins génial, qui est enfin, Pourbus, et il a, ce Pourbus est en train de bricoler un petit peu un tableau, et Frénophère modifie ce tableau qui représente la Sainte Marie l'Égyptienne, je crois me souvenir, il vient le modifier, et donc on fait apparaître effectivement mieux Sainte Marie l'Égyptienne, mais c'est surtout donc Frénophère envisage de peindre le tableau absolu d'une jeune femme qu'il veut appeler la belle noiseuse, donc belle noisy, la belle emmerdeuse, enfin quelque chose comme ça, celle qui dérange un petit peu, et il demande donc à un jeune homme qui est là, donc le futur Nicolas Poussin, de lui prêter sa copine, et donc il va entreprendre de peindre le tableau absolu pour qu'elle sorte effectivement de la toile, qu'elle apparaisse vraiment, qu'elle se voit comme une chair, qu'elle passe enfin de la toile à cela. Et puis, bon, voilà, quand il produit son œuvre, quand il donne son œuvre à Poussin, aux autres qui sont là, il ne donne jamais qu'une œuvre dans laquelle on voit un chaos de couleurs à peu près indistinctes, et on voit juste une sorte de chose qui apparaît, qui est absolument merveilleuse, délicieuse, un pied, c'est-à-dire l'objet avec lequel on fait des pas, sage ou pas, et cette œuvre d'un fou, Frénophère, donc au bout du compte, il va mourir en réalité, parce qu'il se rend compte que véritablement, il n'est pas arrivé à faire sortir, à faire passer hors de la toile autre chose que ce qu'il ne peut pas penser comme une œuvre de Jackson Pollock ou autre, puisque donc il est un peintre du XVIe, XVIIe siècle, et un peintre commenté par Balzac, il ne peut pas concevoir qu'il est en train d'imaginer évidemment l'art moderne et contemporain, mais Balzac nous le montre comme tel, et donc il y a quelque chose qui sort, qui est le pied désirable, le pied nu, le pied admirable qui sort de la toile, mais il ne sort que cela véritablement de la toile à ce moment-là. Et donc, voilà donc effectivement un deuxième sens du mot peindre. Effectivement, peindre, c'est, Montaigne en est très bien conscient, en peignant, je fais sortir peu à peu, monter en présence vers nous, vers moi, en même temps, moi l'auteur, effectivement, cette figure qui va apparaître et qui n'est pas encore apparue, qui est en cours d'apparaître. Donc, ça va passer vers la perception. Voilà donc un petit peu la chose. Eh bien, Montaigne écrit sa phrase avec cette métaphore, avec ce verbe peindre, avec ce présent. Il l'écrit aussi vraiment à la première personne. C'est pas quelqu'un qui peint l'être ou qui ne peint pas l'être, qui peint pas ça, c'est chez moi, hein, moi véritablement, qui est en train de peindre effectivement cette chose-là. Et donc, évidemment, le jeu là-dedans est important, puisque c'est le jeu qui permet de fabriquer la métaphore, enfin de faire qu'elle fonctionne véritablement, c'est le jeu qui est l'objet et le sujet en même temps, c'est le jeu à travers lequel ça se passe, qui passe et qui fait passage véritablement. Et donc le jeu n'est pas là pour... Enfin, le jeu est vraiment capital dans cette affaire-là. Alors, si je regarde encore un peu mieux la phrase, « Je ne peins pas l'être, je peins le passage », elle est évidemment composée de deux temps. De temps qui sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Il aurait pu écrire « Je peins le passage, je ne peins pas l'être hein ». Il aurait pu le mettre dans l'autre sens. Il aurait pu faire aussi deux phrases absolument séparées. « Je ne peins pas l'être, blablabla, bla, 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 parce que, mais en réalité, je peins le passage ». Enfin voilà, un truc comme ça. Voilà, un truc de dissertation d'étudiant ou de professeur un peu mauvais. En fait, il fait une seule phrase « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ». Et donc, il a d'abord donc, une négation, d'abord, « Je ne peins pas l'être ». Et puis une affirmation ensuite, « Je peins le passage ». Et il fait un passage de la négation vers l'affirmation. Non, oui. Non, oui, voilà le chemin. L'affirmation, la deuxième partie, se constitue par progression par rapport à la négation. Enfin, voilà. Mais aussi, en même temps, par régression par rapport à la négation. Parce que quand je suis à l'affirmation, évidemment, je peins le passage, je me souviens que je viens, je parle un peu comme Pérec, je me souviens que je viens de lire « Je ne peins pas l'être ». Donc la phrase fonctionne, on revient sur l'histoire de l'arc et du quart de tout à l'heure, dans les deux sens. Je ne peins pas l'être, je peins le passage, mais quand je suis arrivé à « Je peins le passage », je me souviens, bien sûr, qui a écrit juste avant « Je ne peins pas l'être ». Et donc la phrase passe dans ce sens, et passe aussi, évidemment, dans ce sens. « Je peins le passage » ne fonctionne que parce qu'il y a juste avant la négation. Donc, je vais de la négation à l'affirmation, de l'affirmation, je reviens, effectivement, à la négation. Au fond, c'est une phrase qui s'en va, et qui revient, c'est comme une sorte de cycle qui ne cesse effectivement de passer, de revenir sur lui-même et d'interroger par chacun des bouts effectivement le début et la fin. Ainsi, on n'est pas simplement dans cette affaire-là, dans une opposition de nature philosophique un peu simple qui serait l'opposition être-passage. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que le passage? Comme ça. C'est pas simplement ça qui fait cette phrase, et ce n'est pas une simple opposition qui nous dirait l'être n'est pas le passage n'est pas l'être. Certes, l'être n'est pas le passage n'est pas l'être, mais le passage tel qu'il est formulé n'est pas autre chose que ce qui est dans le sillage de la pensée de l'être, ou plutôt de la possibilité de peindre l'être qui vient d'être formulé dans la première partie de la phrase qui est là. Et puis, on peut dire à l'inverse que la pensée de la possibilité de peindre l'être n'a de sens que dans l'effectivité de la certitude de peindre le passage qui vient juste après. Et non, on n'a pas l'être le passage, on a le peindre le passage, peindre l'être, le non peindre l'être, le oui peindre le passage, mais surtout le je peins l'être, et je peins le passage, et je ne peins pas le passage. Et donc, on a quelque chose qui relève effectivement de la catégorie du repentir, la catégorie fondamentale de Montaigne dans ce chapitre. Parce qu'en effet, effectivement, il y a ce système d'aller-retour, je me souviens que, je critique, j'aurais pu peindre, je puis tenter deux, etc., mais je ne fais pas, mais je me souviens que j'ai fait, etc., on a quelque chose de complexe. Voilà ce à quoi cessait, très précisément, Montaigne. Voilà ce à quoi il cessait, voilà qui est réel, pour employer maintenant le mot réel, qui nous sert évidemment ici de mot pilote. Un petit. Voilà écrire réellement le réel, si l'on peut dire, si on peut se permettre ici le mot réel. Le mot réel nous est autorisé et rendu un peu obligatoire par le programme, effectivement, là, des journaux qui sont là, mais c'est un mot que Montaigne n'emploie pas. C'est un mot qu'on n'emploie pas au XVIe siècle, le réel dans le sens moderne. Le mot n'est pas de mode alors, et peut-être, tant mieux d'une certaine manière, si on se souvient que le réel, il y a une sorte de violence du mot réel, hein, l'imposition du réel. Rappelons-nous le réel est obligatoire, l'économie c'est le réel, etc. Là je parodie un petit peu Badiou dans un livre récent qui s'appelle quelque chose comme « À la recherche du réel perdu », sur lequel il insiste vraiment avec la grande énergie sur le fait qu'effectivement il y a une effectivité négative autoritaire du réel. On nous dit « Souvenez-vous du réel ». Arrêtez de rêver, souvenez-vous du réel. Arrêtez de faire des utopies, etc. Souvenez-vous de l'économie. Hein. Voilà un des thèmes qui nous est proposé là. Et donc, effectivement, le réel, hein, je prends un petit peu l'analyse de Béadu, fait quelque peu bloc, hein, fait masse, ce qui me cogne, ce qui m'ennuie, etc. Alors que là, effectivement, je n'ai pas exactement une pensée de ce qu'on appelle le réel en termes modernes, mais j'ai quelque chose comme du jeu, j'ai quelque chose comme de l'être, du passage, j'ai un peindre, peindre pas, ne peindre peu, etc. Il y a passage, évidemment, au pluriel, entre ces termes, par l'écriture même, qui elle-même est pensée comme autre chose que l'écriture, puisqu'elle est pensée par la métaphore, en termes, effectivement, de peinture. On a quelque chose, en effet, de magnifique, qui illustre la branloire pérenne dont on parlait tout à l'heure. Donc, à la fois ce qui branle, qui met en branle, un peu dans tous les sens du terme, l'ébranleur même des dieux, qui est pérenne, donc qui dure tout le temps, comme il y a des sources pérennes. Et on se souvient que dans le texte de Vauquelin d'Affrénée tout à l'heure, il y avait ce « toujours », pas ce « toujours » par ce passage, la répétition, etc. Quelque chose comme ça. Donc, il y a toujours du passage, il y a toujours quelque chose qui branle, il y a toujours de l'être, il y a toujours quelque chose qui est là. Bon, voilà ce qu'on peut se dire. Alors, on se dit, on est là très loin du roman moderne et du roman en général, puisqu'on se dit, voilà, ce type est venu là pour parler un peu du roman, et puis depuis un moment, il nous parle de Montaigne. Bon, il y a un peu de Giscard, mais tout de même. Bon, parlons un peu du roman tout de même. Alors, est-ce qu'on est loin du roman avec Montaigne? Non, oui. Oui, non, Montaigne n'est pas un romancier, évidemment. Mais il y a la carte secrète du conférencier, la carte secrète, c'est Marie de Gournay. Alors, certains connaissent peut-être bien Marie de Gournay. Marie de Gournay, c'est un jeune pin-up qui, à la fin de la vie de Montaigne, femme admirable, très jeune à ce moment-là, très belle et tout ce que l'on veut, vient voir Montaigne chez lui, là, à Bordeaux, et qui, bon, voilà, le rencontre, elle est extrêmement admirative, elle finit ses études au Mirail ou en classe préparatoire, peu importe, elle est extrêmement douée, hein, voilà, et elle va voir, donc, en solitaire, Montaigne, bon, pour rencontrer, disons, le grand homme. Lui n'est pas mécontent, une jeune fille qui vient vous voir quand vous avez 70 ans, par là, bon, ce n'est jamais désagréable, il se promène un petit peu avec elle, et bon, il finit par mourir assez rapidement, certains disent qu'elle a devenu sa maîtresse, enfin, bon, peu importe, les détails, très bien, ça arrive à tout le monde, mais donc, Madame Montaigne est d'ailleurs très contente, elle remet des manuscrits à Marie de Gournay, qui va se charger en fait d'être l'exécutrice, disons, testamentaire de l'œuvre de Montaigne, puisque c'est elle qui va éditer Montaigne dans les années du début du XVIIe siècle, à ses risques et périls, ce ne sera pas si évident que ça, elle va y travailler, elle sera d'ailleurs donc fortement condamnée par la vox populi, enfin disons intellectuelle machiste du temps, parce qu'elle va écrire des textes sur l'égalité entre les hommes et les femmes, donc ça c'est très mal vu, elle va écrire de la poésie, elle va être une traductrice, et elle va défendre sans arrêt, dans un temps sur lequel effectivement on va se méfier de plus en plus de Montaigne, quelque peu inspirateur des libertins, etc., Montaigne. Et donc, elle aura une carrière littéraire difficile, elle sera fortement condamnée par les gens les plus sérieux, et malheureusement, Marie Gournay est beaucoup moins connue qu'un tas d'écrivains moins importants et moins intéressants. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est pas l'expérience générale de Marie de Gournay, c'est un livre de Marie de Gournay, génial, vraiment qu'on ne trouve guère que chez Garnier Jaune, malheureusement, qui s'appelle Le Promenoir de Monsieur de Montaigne. Le Promenoir de Monsieur de Montaigne. C'est un livre qu'elle publie plusieurs fois, à partir de 1594, et puis dans les premières années du XVIIe siècle. Le Promenoir de Monsieur de Montaigne, c'est une espèce de livre dans lequel elle parle de Montaigne, donc de quelque chose qui est très important pour Montaigne, le Promenoir. Le Promenoir, c'est un mot de poésie de l'époque. Le Promenoir, c'est, Montaigne explique, on a toujours besoin, quand on réfléchit, d'avoir un promenoir. C'est-à-dire un lieu où on se promène, un temps pendant lequel on se promenait, et puis aussi avec ce concept de promenade, qui n'est pas le voyage, trop long, trop fatigant, etc., qui n'est pas l'itinéraire non plus, qui est donc la petite sortie qu'on fait autour de l'abbaye de la Grâce, à droite, à gauche, en réfléchissant, en regardant un petit peu les choses, et que va réactualiser Rousseau dans les rêveries du promeneur solitaire. Alors, qu'est-ce qui nous est raconté là-dedans? C'est que Marie de Gournay aimait bien Montaigne, effectivement, elle donne quelques anecdotes, dont l'une, qui est un des points forts de ce promenoir, c'est que se promenant avec Montaigne dans les années 1590 par là, du côté du château de Montaigne, elle lui raconte un roman. Ah, elle lui raconte un roman. Alors là, on revient à Giscard, hein, donc Montaigne, le vieux bonhomme, qui a une jeune fille qui vient de lui. Alors c'est beaucoup mieux qu'avec Giscard, puisque la jeune fille lui raconte un roman, une histoire de l'époque, bon, qu'elle tire d'un auteur peu connu, peu importe. Et Montaigne prend un grand plaisir, on le comprend, à ce qu'une jeune fille, bon, de 17 ans, 18 ans, vienne de Paris pour lui raconter dans son promenoir un roman. Il se régale avec ça. Et donc, quelques années plus tard, Marie de Gournay écrit ce roman, le publie dans le promenoir, après la mort de Montaigne, et quand elle republie le Promenoir vers 1614 par là, elle l'accompagne effectivement d'une préface assez longue dans laquelle elle définit et justifie l'art du roman. Alors l'art du roman, c'est un peu problématique parce qu'en effet, au début du VIIe siècle, le roman, c'est un genre libertin, douteux, pas sérieux, pas catholique, compagnie, qui envoie la subjectivité de l'individu, qui laisse la place aux femmes. Le roman qu'elle raconte est un roman dans lequel les hommes sont quelque peu bêtes. Enfin voilà, évidemment, les femmes ont un rôle tout à fait important. Voilà. Et Marie de Gournay justifie le roman au nom des puissances de l'imaginaire, de la fiction, aussi au nom des puissances du sérieux, dit-elle. On peut bien, dans un roman, citer des grands auteurs, plus tard que bien d'autres, Cicéron, etc., parce que le roman est aussi un genre sérieux. Alors Marie de Gournay a à voir avec le roman. Ces textes-là sont des textes fondamentaux dans l'histoire du roman, bien connus par ailleurs, disons, des universitaires, des spécialistes, mais aussi, effectivement, parce que se joue là quelque chose comme le passage à témoin de Montaigne à Marie de Gournay, donc d'un homme à une femme, d'un vieil homme à une jeune femme, d'une tradition d'édition, et puis aussi d'une promenade, d'une marche, dans laquelle un roman se raconte entre Marie de Gournay, la jeune femme, tentante, évidemment, intelligente aussi, prometteuse, et extrêmement fidèle, elle sera extrêmement fidèle à Montaigne, hein, voilà, véritablement, elle va poursuivre son œuvre avec un courage assez considérable, et donc là, entre les deux, se joue quelque chose comme du roman. Alors, Montaigne n'a pas écrit des romans, il a écrit donc des essais, en effet, et on comprend, voilà une opposition fondamentale, mais il y a sans doute chez lui comme une tentation du roman qui, quelque part, arrive sous la forme de la jeune femme qui vient le voir, et dans le promenoir, on va se raconter un roman, on trouve du plaisir, et ça suit la suite. Le fait d'écrire l'essai plutôt que du roman, il y a évidemment quelque part une sorte de réticence, évidemment, à la fiction chez Montaigne, hein, puisqu'il y a un désir du portrait, de se mettre tout nu, et donc de ne pas opérer ce passage particulier qui est le passage vers la fiction. On connaît un autre grand écrivain, mais du XXe siècle, français, Roland Barthes, ce qui est une sorte d'essayiste, lui aussi multiple, une sorte de moraliste aussi, à bien des égards, un très grand écrivain, à bien des égards, dont on célèbre l'anniversaire de la mort ce jour-ci, qui a été habité par cette tentation du roman, et on sait qu'il est mort sans avoir écrit de roman, et que sa mort a fait récemment l'objet d'un roman, hein, qui a une certaine célébrité ces temps-ci. Et donc, il y a chez Barthes aussi un désir d'écrire, un désir de faire passage, en certaine manière, mais une réticence évidente, une difficulté à trouver, revenir un petit peu dessus, cette forme particulière qui serait donc une forme un peu close, qui supposerait la fiction, enfin bien des choses, qui permettrait effectivement d'écrire un roman. Alors Montaigne est loin du roman, mais si on se dit qu'il écrit des essais, l'essai n'est pas si loin du roman cependant. Il y a Milan Kundera qui insiste beaucoup sur le fait que la forme roman a des rapports avec l'essai, qu'un certain nombre de romans et de grands romanciers mettent des essais à l'intérieur du roman. Il cite régulièrement Hermann Broer qui, dans Les Somnambules, met un immense essai sur le kitsch, et puis Proust, hein, qui met des essais sur l'amour à l'intérieur de La Recherche d'un perdu, etc., Rousseau ou Victor Hugo, des essais sur les égouts, par exemple, dans dans Les Misérables, etc., etc. Et donc, il y a un rapport commun entre le roman et l'essai, c'est la volonté de s'essayer au présent à partir d'une subjectivité pour essayer d'écrire, c'est-à-dire de peindre le passage du monde qui peut être effectivement les égouts de Paris, par exemple, ou le passage de l'amour, par exemple, dans l'œuvre de Marcel Proust, ou le passage vers effectivement le kitsch chez Hermann Broch ou bien d'autres, etc. Et donc, effectivement, on a une sorte de paysage qui se dessine un petit peu, mais pour le comprendre un petit peu, il faut toujours peut-être revenir à Montaigne pour comprendre un peu le moment, l'époque. Montaigne vit donc à la fin du XVIe et ses prolongateurs immédiats, Marie de Gournay et quelques autres, sont au début du XVIIe siècle. Là, c'est un moment assez important dans l'histoire de la littérature et de la culture européenne. On sait qu'en 1600, Giordano Bruno est tué sur le Campo dei Fiori à Rome, très bien, et que tout se joue autour de, à la fois, l'invention du sujet, le passage de ce que quelqu'un appelle de l'univers clos au monde infini, enfin, du monde clos à l'univers infini, Alexandre Coiré, et puis d'un changement considérable qui a beaucoup à voir avec le passage d'un siècle à l'autre, passage d'un savoir à une autre, d'une épistémée à une autre, pour aller comme Michel Foucault, passage d'un état du sujet à un autre état du sujet, passage d'un type d'état, même à un autre type d'état. Alors, je vais immédiatement à côté de Montaigne, dans la culture européenne, il y a à ce moment-là, à mon sens, trois grands auteurs et textes, on va dire, qui méditent sur le passage, dont un, c'est un auteur de roman fondamental. Il y a, je vais juste citer un peu ces trois personnages pour les situer un petit peu et situer évidemment le propos du roman. Il y a évidemment Montaigne, qui meurt donc en 1593. Il y a, contemporain de Montaigne, mais ayant vécu plus longtemps, Agrippa de Migné, l'auteur des Tragiques, grande méditation sur le passage du temps et des guerres, etc. Il y a Shakespeare, en Angleterre, dont l'œuvre est à peu près contemporaine, de Agrippa de Migné, même exactement contemporaine. Et puis, il y a enfin Cervantes, qui lui propose un roman, qui est donc Don Quichotte de la Manche, et puis un ensemble d'œuvres qui sont autour. Et là, on a quatre choix qui sont contemporains à 10-15 années près, de quatre hommes extrêmement éminents qui, tous les quatre, d'une certaine manière, ne peignent pas l'être, mais peignent le passage. Alors, pour Montaigne, on a déjà vu un petit peu ce travail de l'essai, hein, véritablement. Agrippa de Migné est un protestant qui constate avec horreur, fureur, désespoir qu'effectivement, le monde n'est plus ce qu'il était ou qu'il espérait qu'il fût. Le monde, c'est l'effondrement complètement de l'espoir protestant, véritablement, avec la trahison, à ses yeux, grande trahison, de Henri IV, son compagnon de guerre, etc. Et dans les années du début du VIIe siècle, il porte un regard rétrospectif sur ce temps tragique, voilà le mot, d'égorgement, de destruction que sont les guerres de religion. Et il ne propose pas, sur cet épisode-là, qui pour lui est une catastrophe répétitive qui remonte à la fois au temps biblique et qui est présente, il ne propose pas un regard romanesque ou un regard théâtral ou un regard d'essai. Il fait un choix, il fait le choix de la poésie. Des vers, bien sûr, une œuvre composée d'un certain nombre de chants qui parlent d'un point de vue prophétique. Donc c'est du point de vue de Dieu. Moi, je suis un prophète. Moi, Agrippa de Migné, je suis un prophète. Je regarde se déployer le tableau des siècles et en vers, et le vers, langue noble, langue répétitive, etc., je vais vous montrer, effectivement, ce que c'est que le tableau des siècles. Et donc, évidemment, c'est quel malheur. On s'éloigne de l'être, on entre dans l'abominable temps du passage. Le poème est là, les tragiques, pour nous rappeler, avec la plus grande énergie, effectivement, le temps peut-être de l'être, hein, duquel nous nous éloignons parce que nous plongeons dans l'horrible modernité, si on peut dire, hein, quelque chose comme ça, le temps de la trahison. Et donc il fait un choix que l'on connaît bien, c'est le choix d'une partie de la poésie lyrique française et internationale, le choix du poème qui est comme chute d'un désastre obscur, hein, c'est une sorte de révélation qui m'arrive sur moi, qui est comme une sorte de prophète, qui parle depuis en haut, qui parle pour l'éternité par l'éternité, et en quelque manière qui n'a pas une postérité considérable, immédiate, parce qu'une partie de la modernité va renoncer à ce choix, disons, d'Agrippa de Migné. On va le retrouver peut-être au XIXe siècle. Donc c'est un premier choix qui est le choix de la poésie lyrique formulée en Dieu. Il y a un autre choix très différent, qui est le choix de Shakespeare, au même moment, vraiment au même moment, en Angleterre. Lui, évidemment, les pièces de Shakespeare méditent très abondamment, très puissamment, sur toutes sortes d'aspects, en effet, du passage. Évidemment, si on se souvient, le être ou ne pas être, hein, de Hamlet, évidemment, c'est à l'intérieur du tourbillon du temps qui passe, de ma psyché qui devient mobile, etc., des illusions, à dire être ou ne pas être. Mais c'est aussi l'histoire. On sait toutes les histoires des Henri divers, des guerres qui se racontent dedans. C'est aussi le passage du temps, c'est aussi le passage des sujets vers la folie, le passage des corps, corps, le passage de sexualité, etc., etc. Tout cela est déployé très largement dans l'œuvre de Shakespeare, œuvre maniériste, si on veut, si on veut employer un terme, on peut en employer d'autres, si on veut, pré-baroque, enfin, comme on veut. Donc, en tout cas, œuvre qui choisit de mettre en scène le passage de manière spectaculaire, en prenant le mot spectacle dans son sens le plus net, c'est-à-dire par une succession de spectacles avec des moyens considérables, il faut des comédiens, il faut de l'argent, il faut des décors, il faut de la musique, etc., et il faut des images très considérables. On a là quelque chose qui est assez une des possibilités pour dire le réel avec des moyens vraiment considérables qui sont ceux que ensuite le cinéma va redéployer avec d'autres arts ou l'art vidéo ou bien d'autres arts au XXe ou XXIe siècle abondamment. On connaît bien cela. On voit bien qu'il y a quelque chose dans le spectacle qui est comme une sorte de puissance considérable d'apparition, donc d'investissement, d'argent, de complexité, mais on perd quelque part dans le théâtre la solitude de celui qui lit ou qui écrit qu'on va trouver dans le roman. Le passage du temps, quand je lis longuement un roman, le passage du temps, quand j'écris longuement un roman, que je reviens en avant, que je reviens en arrière, et donc quelque chose de très singulier que je n'ai pas au théâtre. Quand je suis au théâtre, je vois le spectacle avec d'autres gens, comme vous écoutez peut-être cette conférence avec d'autres gens, et malheureusement, vous ne pouvez pas me faire revenir en arrière ou en avant, enfin, des choses comme ça, on ne peut pas cliquer comme ça très facilement. Tandis qu'évidemment, quand on lit un livre, quand on lit un roman en particulier, le texte a été écrit par un individu solitaire, qui l'écrit pour les individus solitaires, et qui peuvent faire sans aucun moyen technique très compliqué, des allers-retours sans arrêt dans le sens. Et donc, c'est le choix que fait Don Quichotte. Don Quichotte, lui, esprit espagnol extrêmement puissant, va méditer aussi, évidemment, sur le passage. Il rencontre les mêmes questions qui se posent, mais dans un contexte religieux et politique très différent, à Agrippa d'Aubigné. Il y a bien eu un temps ancien, il y a un temps moderne. Et quelque part, bon, il y a eu le temps d'une certaine Espagne, il y en a une nouvelle, peut-être un peu décadente à ses yeux. Il y a effectivement le temps des romans de chevalerie auxquels Don Quichotte croit véritablement. Il y a le temps dans lequel on n'est plus, qui est le temps dans lequel les romans de chevalerie n'existent plus. Et Don Quichotte passe. Dans la Mancha, sans arrêt, il se balade, il se promène, donc d'autres se promènent en train, en avion, en bateau, etc. Lui, il se promène à cheval, et il passe, il porte effectivement un temps passé, et horreur des horreurs, il se trompe, évidemment, croyant que le monde dans lequel il est toujours le monde des romans de chevalerie, il attaque des moulins, et là, on lui fait comprendre que c'est une erreur. Et on lui fait comprendre que c'est une erreur, mais c'est peut-être pas une mauvaise erreur, puisque, effectivement, quand il comprend, en vérité, à la fin de la deuxième partie de Don Quichotte, que c'est une erreur et qu'il s'est trompé, que la Dulcinea del Toboso n'est qu'une prostituée un peu laide et un peu bête, etc., que les moulins ne sont que des moulins, etc., quand il comprend la vérité, quand il admet la vérité, il ne reste plus qu'à mourir. Et donc, il y a cette leçon terrible, c'est qu'on ne vit véritablement que par le passage vers la fiction, quelque chose comme ça. Donc, le roman est libérateur. Eh bien, bien sûr, le roman qui est là est un roman, c'est un texte, avec plein de récits qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes, avec effectivement cette pensée de Montaigne. Je ne peins pas l'être absolument, je peins le passage de Don Quichotte, le passage du temps, le passage des modes, le temps des romanciers de chevalerie ou autre, le passage du réel à la fiction, les allers-retours, le fait que je peux lire et relire ce roman dans tous les sens, que dans ce roman, il y a le roman de Don Quichotte, vous savez, qui est dans la bibliothèque de Don Quichotte même. Donc il y a des phénomènes de passage, de retour interne. Et donc là, j'ai quelque chose qui effectivement, est à la fois extrêmement moderne et promis à une modernité considérable. On va dire, et là, Kundera a ses raisons, me semble-t-il, donc Cervantes est un des grands inventeurs du roman européen, c'est-à-dire un des grands inventeurs du genre de ce que Kundera appelle l'humour, c'est-à-dire de quelque chose sur lequel il y a une suspension du jugement. Ce n'est pas faux, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, ce n'est pas faux, injuste, c'est quelque chose dans lequel j'oscille entre les deux, dans lequel je fais effectivement passage, et dans lequel effectivement j'éprouve effectivement ce dont il s'agit quand il s'agit d'une branloire pérenne, c'est Montaigne. On peut dire, enfin, en quelque façon, Montaigne, Agrippa d'Aubigné, Shakespeare et Don Quichotte se trouvent confrontés à ce monde dont ils éprouvent tous les quatre que c'est effectivement une branloire pérenne, que le réel, si on va employer ce terme-là, moins joli peut-être que branloire pérenne, à quelque façon, mais on pouvait difficilement mettre comme programme écrire la branloire pérenne, ça aurait fait un peu curieux, d'accord, voilà, que la branloire pérenne est une meilleure métaphore que le réel lui-même, puisqu'elle a un côté un peu plus rigolo, en quelque façon, que le réel lui-même. Mais face à cette branloire pérenne dont ils éprouvent en France, en Angleterre, en Europe, les sentiments, ils font des choix esthétiques, des formelles absolument distinctes, mais quelque part qui impliquent tous quelque chose de la modernité. Alors pour ce qui est du roman, on voit bien effectivement le choix de Don Quichotte de nous faire apparaître quelque chose dans la langue espagnole, ça pourrait être dans la langue française, dans la langue anglaise ou autre, adressé à un lecteur individuel qui va pouvoir librement faire quelque chose. Et donc, on est bien quelque chose qui a à voir avec l'invention du sujet. Montaigne, Marie de Gournay, la subjectivité qui s'invente dans ce moment-là, une certaine liberté qui est proposée là. Et va-t-on dire, en effet, si on veut parler du réel à propos, effectivement, de la représentation du roman, sans doute, le roman est-il assez nécessairement tenté par cette idée du passage ? Parce qu'en effet, et porter ce titre, le passage, est une chose importante, parce qu'en effet, il y a tous ces passages, disons, entre la fiction et la non-fiction, entre le sujet un et le sujet pluriel, entre, effectivement, les passages du temps qui vont, sans l'obsession de la mélancolie qu'on va trouver volontiers en poésie, il y a, évidemment, les passages qui sont les lieux dans lesquels on se promène, tout ça qui sont autant d'objets, effectivement, pour le roman, et qui constituent, sans doute, la matière romanesque, véritablement par excellence. Alors, de ce point de vue, j'avais cité un petit peu au début La carte et le territoire de Michel Houellebecq. On peut aller un petit peu encore un peu avec ça, dans ce livre-là qui a eu le prix Goncourt il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus très bien, et qui porte un titre qui ne fait pas passage, La carte et le territoire, on est sur autre chose. On a bien une scène qui est assez étonnante dedans, qui rappelle un petit peu Montaigne, puisque dans ce roman-là, il y a un artiste contemporain qui fait le portrait, qui peint un homme qui passe, et cet homme qui passe, c'est Michel Houellebecq lui-même. Donc on nous propose effectivement, Houellebecq se propose de peindre rien d'autre que Houellebecq à travers un artiste contemporain qui est dedans, voilà. Et donc il y a un magnifique tableau de Houellebecq peint par un artiste contemporain qui est là. Ce tableau a un prix évidemment considérable. Houellebecq est satisfait, ce tableau vaut 16 millions d'euros, je crois, voilà. Donc c'est très très bien, voilà. Mais évidemment, quand un tableau vaut 16 millions d'euros, il y a quelqu'un qui veut le voler, donc il y a un vieux pervers qui commande un commanditaire. Et donc Houellebecq lui-même est assassiné, hein, voilà, dans ce roman nous raconte l'assassinat de Houellebecq dans le roman lui-même, en présence de son portrait, et donc le corps de Houellebecq est déchiqueté, transformé en faux Jackson Pollock, hein, puisque les morceaux de Houellebecq sont mis partout, et donc Houellebecq fait passage au portrait de Houellebecq, le portrait de Houellebecq fait passage vers le corps de Houellebecq, lui-même éclaté à l'infini, dans le roman de Houellebecq lui-même, qui se porte bien à la fin du roman, dans lequel il décrit son assassinat face à son portrait. Et donc, vraiment, véritablement, dans ce roman-là, effectivement, il y a un être passé qui nous est proposé de manière un peu absurde, un peu rigolote, un peu scandaleuse, un peu énervante, en fait, tout ce que l'on veut, dans lequel il incarne bien, effectivement, cette problématique du réel, pensée en termes d'art contemporain, mais qui prolonge étrangement Montaigne, avec cette exemple de la peinture qui est là, qui nous est proposée, de quelque chose qui est dynamique, véritablement, à l'intérieur de tout cela. Alors, je voudrais pas aller beaucoup plus loin, parce qu'après, on pourrait passer des nuits à parler de Houellebecq et de Montaigne ou de gens comme ça, et simplement, c'était assez agréable d'introduire un petit peu, de faire passage vers les autres commentateurs, voilà, et devant, après, vers les dames et les hommes pendant les jours qui viennent, vers Tristan Garcia, vers Yves Ravet et bien d'autres, vers des romans, vers des essais, vers la pensée de Jablonka. Il faudrait évidemment introduire la question de l'histoire dans ces cas-là et du passage et autres. Et donc, dans une abbaye qui est un lieu à la fois de fixité, d'être, puisque les moines se rassemblent pour méditer sur Dieu et à l'intérieur du cloître de regarder effectivement le ciel, où des gens font passage grâce aux passeurs que sont les gens de l'abbaye de la Grâce, qui contient lui-même le mot passage. Et donc, effectivement, on a un lieu qui est à la fois un lieu de la route, puisqu'on y arrive par la voiture, par la route, et donc un lieu romanesque par excellence, un lieu effectivement de l'être, un lieu être passage, un lieu en quelque façon romanesque par excellence, et romanesque dans une certaine légèreté. Alors, un de mes auteurs préférés, c'est Jean de La Fontaine, et une de mes fables préférées de Jean de La Fontaine contient le mot passage, c'est la fable qui s'appelle Le savetier et le financier. Alors, tout le monde connaît cette fable-là. Au début, il y a un savetier, donc, qui n'est pas très riche, qui n'a pas d'argent, et qui est donc extrêmement heureux, et on nous dit qu'il faisait des passages, c'est-à-dire des chants, il faisait des passages plus content qu'aucun des sept sages. Donc il faisait des passages mélodieux, il était extrêmement heureux, et évidemment il faisait des passages parce que donc effectivement il n'avait pas d'argent, et donc il n'avait pas ce que Badiou appelle le réel, l'économique réel abominable lourd. Arrive le financier qui pour le rappeler au sommeil, c'est-à-dire au réel, à son réel vraiment, véritablement, lui donne quelque argent, un trésor, et à ce moment-là, effectivement, le savetier ne fait plus passage, ne va pas plus voir les jolies dames, ne chante plus, n'est plus celui le chanteur, libre et léger, plus heureux qu'aucun des sept sages, mais il ne pense plus qu'à une seule chose, son trésor, et il ne dort plus, etc. Il va donc devoir tenter, souffrant terriblement du poids de l'or, c'est-à-dire en fait du réel de ce point de vue-là, devoir s'en débarrasser pour tenter de retrouver cette légèreté du passage dans le rapport à l'être, lettre, effectivement, de lettres légères où l'on cessait en chantant, qui le débarrasserait. Alors effectivement, La Fontaine, dans une fable qui est un récit, donc, et qui a, à quelque manière, rapport avec le roman, mais qui est aussi une poésie, puisqu'elle est en vers, mais pas une poésie comme celle d'Agrippa de Bigny, pas une poésie lyrique, hein, qui serait plus ou moins chue d'un désastre obscur. Dans un récit qui prend la forme d'un conte rapide, humain, etc., nous propose effectivement une tentative pour dire le réel. Et le réel n'est ni dans le trésor, véritablement, hein, parce que, évidemment, dire que le réel, c'est le trésor, c'est comme une sorte d'erreur, c'est pousser trop loin les thèses un peu paradoxales de Bayou au début de son livre. Donc le réel comme négation, pesante, obligation qui, au bout du compte, nous empêche de dormir. Rien ne nous empêche plus de dormir que le réel, semble dire la fable. Hein, voilà. Non, la fable nous propose effectivement le balancier entre le passage du savetier, et on entend le savetier dans le passage, le passage dans le savetier, entre cette légèreté musicale des passages, et d'autre part, bien entendu, effectivement, l'obsession, hein, du thésaurisateur, le financier, que va devenir effectivement le savetier quand il aura l'or. Et la fable, donc, effectivement, nous dit ce qu'on peut appeler le réel en nous faisant rêver avec légèreté au passage au pluriel entre les passages et les trésors. Et donc, quelque part, le réel est entre, disons, la légèreté du chant et le trésor, hein, peut-être. Voilà, j'arrête là-dessus.